Avant de démarrer cet épisode, je voulais remercier notre premier sponsor qui permet de redonner vie à ce podcast, c'est Eymundo, une assurance en ligne de qualité que j'apprécie beaucoup parce que elle t'accompagne tout au long de ton voyage grâce à une application et un service d'assistance réactif. Ils sont disponibles par téléphone 24 heures sur 24 et surtout parce qu'avec cette assurance, il n'y a pas de petites lettres, ni de chichi, tout est simple, rapide et sans processus administratif interminable pour le remboursement. Et tu me connais, je déteste l'administratif, donc si tu pars bientôt en voyage, va faire un tour sur leur site Heymundo.fr, Heymundo.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour.
Regarde-moi ça!
J'ai l'impression de faire la dégustation.
Ouh! Ça, c'est de la vie! Ah, c'est magique, ça!
C'est absolument dément.
Et le spot est juste incroyable.
Ça joue vraiment à quelques centimètres.
On va s'enfoncer un peu dans la forêt.
Bon, ok.
Tout le monde est absolument gentil.
C'est ça la vie. Zéro.
Bonjour internaute et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage, et aujourd'hui je t'emmène à travers le monde mais sur une thématique scolaire et d'études et d'université. Il y a beaucoup de jeunes qui justement sont sur les bancs de l'université et ne rêvent que d'une chose, c'est de voyage, et ils se disent qu'il va falloir qu'ils trouvent un job et ensuite qu'ils se payent des voyages ou alors qu'ils arrêtent leurs études pour pouvoir voyager. Sauf qu'en fait il y a plein de solutions pour pouvoir et étudier et voyager. Et aujourd'hui, on est avec Anaïs qui va nous en parler, qui est partie pendant 2 ans et demi à l'étranger en train d'étudier à travers le monde. Anaïs, comment ça va ?
Ben, ça va super, Alex. Je suis très heureuse d'être sur ce podcast aujourd'hui.
Eh ben, voilà. Écoute, merci à toi de vouloir partager cette thématique qui est assez spécifique, qu'on a abordée, mais sous plusieurs formes. Il y a eu le service civique, il y a eu les Erasmus, il y a eu les échanges, il y a eu le bénévolat. Là, on va être vraiment dans les études universitaires. Et j'aimerais justement qu'on revienne sur le début en fait de tout ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Qu'est-ce qui t'a justement... Tu étais justement sur ton banc, comme je disais, les bancs universitaires. Et tu t'es dit, putain, mais moi, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne résonne pas en moi. J'ai besoin d'aller voir ailleurs. Et tu as trouvé cette solution. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là?
Alors, ça a commencé dès le lycée.
Ah oui?
Ouais, ça remonte, hein. Et en fait, déjà, j'étais très attirée par les langues. Donc, okay. Je faisais anglais, européenne, LV2 allemand, LV3 chinois, tu vois, tout.
Ah oui, t'étais déjà ok, hein. tu t'armais, quoi.
Ouais, j'étais déjà
très attirée. Et le week-end, quand t'avais un peu de temps, c'était russe, quoi.
C'est ça. Et en fait, si tu veux, j'étais dans un mood où vraiment, il fallait être première de la classe. Il fallait de la reconnaissance des professeurs. Bon, voilà, il y avait tout un truc par rapport à ça.
Ouais.
Je travaillais énormément. Okay. Et en fait, tout naturellement, je suis allée en prépa littéraire.
Ok.
Et donc, la première année se passe bien, très, très dur. Donc, voilà, tu travailles, tu étudies.
Les classes prépa, on entend parler. Moi, je ne l'ai pas fait, tu vois. J'ai senti que je n'étais pas prêt, tu vois, la prépa.
Ouais, mentalement, il faut être accroché.
Ouais.
Et en fait, je travaillais 70 heures par semaine. Bon, voilà, c'était...
Ah ouais, t'es pire qu'une cadre. Et t'es même pas payé. C'est pas terrible comme contrat, ça.
C'est ça. Quand t'es en prépa, voilà, t'es pas du tout payé. Et en fait, je sentais qu'il y avait quand même quelque chose de pas très sain derrière. Et que surtout, dans le système français, on était très frontal, tu vois. C'est-à-dire très peu, c'était pas interactif. C'était, je balance mon cours, faut apprendre. Et ensuite, vous essayez d'argumenter avec ce que je vous ai appris. Mais en fait, nous, on ne nous apprenait pas à vraiment réfléchir.
Intéressant.
Et en deuxième année, donc je passe en deuxième année, parce que tu sais, c'est quand même pas facile de rentrer en deuxième année de prépa. Et là,
bravo.
Ouais, merci. Et là, grosse dépression.
Donc, ah ouais.
Là j'ai vraiment plongé, parce que bon, déjà j'avais des problèmes familiaux, bon voilà, après ça
ça se rajoute,
mais surtout je travaillais plus pour moi et je comprenais plus pourquoi je faisais ça. Et puis alors la grosse remise en question, et puis tu remets tout en question, tu vois, le moindre truc. Et en fait, suite à ça, je me suis dit faut que je parte, quoi. Donc après 3 semestres, donc 1 an et demi de prépa, je suis partie, j'ai même pas passé les concours, tu vois. Je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait? Ouais, je suis partie et là j'ai essayé de me reconstruire. Donc j'ai gardé pas mal d'animaux d'ailleurs à ce moment-là.
Ah!
Et ouais.
Mais du coup, en fait, à ce moment-là, t'as cherché plutôt à faire du bénévolat, du coup. Si t'étais partie, t'as juste cherché à t'occuper et à faire quelque chose qui te faisait du bien.
Exactement. Alors c'était pas tout à fait du bénévolat puisque je gardais des animaux chez moi.
Ah ok. Donc, du dog sitting?
Ouais, c'est ça. Pet sitting même.
Pet sitting. Putain, pourquoi t'avais quoi d'autre que des chiens?
J'avais des chats, des furets, des rongeurs.
Des furets?
Ouais.
Ah, d'accord. Attends, parce que ça m'intéresse. C'est quoi le site pour c'est quoi? C'est juste sur le bon coin ou
Ouais, alors il y avait Le Bon Coin. Ah, alors je t'avoue, je sais plus quel site j'utilisais, ça remonte, hein, ça fait quand même bien il y a 6 ans. Bah, si tu veux, je t'enverrai ça
eh
par
ben, on
mail.
mettra dans le lien dans la description du podcast pour ceux qui ont envie de se faire un peu d'argent finalement en gardant les animaux. Ça peut être carrément cool.
Yes, et donc en fait, là j'ai ressenti vraiment que ça avait beaucoup plus de sens que ce que je faisais avant en prépa.
Ouais.
Et puis je commençais à réfléchir, à me dire je devrais peut-être quitter Paris parce que Paris aussi ça me pesait.
Ouais.
Et puis en fait, je suis partie, j'ai voulu partir, c'est-à-dire dans une université à l'étranger, tout de suite. Donc en Nouvelle-Zélande, j'avais vraiment cette target en tête, tu vois. Moi c'était la Nouvelle-Zélande.
T'avais regardé Seigneur des Anneaux, tu t'es dit ma parole, moi je vais étudier avec Frodon, je vais être dans les grands espaces, tant pis. Puis je veux
C'est
prendre de la
ça.
distance par rapport à tout ce qui m'arrive.
Ouais, puis ça m'attirait vachement, je sais pas pourquoi, et d'ailleurs ça m'attire toujours énormément, hein, je compte y aller, mais ça a toujours été voilà, un pays où je veux absolument y aller. Sauf que les universités étaient très chères, les frais d'inscription, etc. Je me suis dit, c'est pas le bon plan, quoi. J'ai pas envie de m'endetter sur 15 ans, enfin ça va pas le faire. Et là, je me dis, mais j'ai quand même un bon dossier, je suis quand même assez douée, tu vois, scolairement parlant.
Bien sûr.
Pourquoi j'essaierais pas juste de repartir dans un système français, mais je vais essayer de postuler, voilà, déjà à un échange. Et ensuite, on verra.
Et
Et
c'est
là,
là
je
où
décide.
t'as creusé justement, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, ouais, mais si je veux, comme tu dis, qui ont le réflexe que tu as eu pour la Nouvelle-Zélande, c'est bah, si je veux aller étudier en Nouvelle-Zélande, je vais me renseigner auprès des universités en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre, etc. Plutôt que avoir le réflexe de dire, bah, en fait, je vais aller dans une université française qui va me propulser avec grâce à un échange ou un partenariat dans ces universités-là, en fait, c'est ça.
Exactement, parce que bon, moi il y avait
Ok.
quand même la balance financière. Hein. Après, ça dépend des jeunes, il y en a qui ont les moyens, mais moi en tout cas, c'était pas du tout le cas. Et je pense que c'est pas la majorité des gens qui ont les moyens.
Ouais, je pense aussi,
Donc
surtout en ce
voilà,
moment.
c'est pour ça que là j'ai décidé de faire des études de LEA. Donc pour ceux qui connaissent pas, ce sont des études de langues étrangères appliquées, qui sont des langues appliquées aux thématiques de l'économie, du commerce, des civilisations. C'est très très intéressant comme formation, très très intéressant, très complet.
Ok.
Donc j'ai fait ma première année à Angers.
Ah, donc t'as quand même dû enquiller une année en France quand même.
Ouais, et ça c'était dur. Pourquoi?
Ah.
Parce que déjà je
Ah bah ça
sortais d'une
change de la
prépa.
Nouvelle-Zélande, hein. Ça
Oui,
c'est.
voilà.
J'ai rien contre Angers, mais on m'a dit c'est pas. C'est pas pareil.
C'est ça. Non, pas tout à fait. Mais j'ai quand même passé une super année et tout. J'ai fait de l'aviron. Enfin, en fait, Angers c'est une super ville étudiante et il
J'ai cru
y a
comprendre,
plein de
ouais.
choses à faire. Et c'est une très belle région de
Et en fait, ça,
viticulture.
t'es obligé de faire cette première année dans l'université française pour en fait avoir ce ticket, ce droit d'ouverture à des inscriptions de stages et d'échanges à l'étranger. C'est ça un peu le deal?
Exactement.
Ok.
C'est-à-dire que tu es obligé d'être inscrit, donc ça, sachez-le, vous êtes obligé d'être inscrit pour pouvoir postuler à un échange.
Ok. Mais tu peux d'abord juste t'inscrire et partir direct sur l'échange? Ou faut quand même avoir bah, au moins cet historique dans l'université?
Ouais, d'ailleurs, c'est ça. En fait, il faut quand même avoir au moins 1 ou 2 années. Généralement,
Ok.
c'est 2. Moi, j'ai eu la chance, comme j'étais en anglais-allemand, et qu'il y avait un partenariat qui s'appelle le programme d'études en Allemagne, ou que tu fais en 2e année. J'ai eu la chance de partir dès la 2e année, et ensuite en 3e année, et ensuite en 4e année, en fait. Donc, ouais, pour
T'as
moi,
fait le
tout
grand
ce
chelem.
qui... C'est ça. Je gagnais des tours à chaque fois, et puis je rejouais.
Ben on va te faire repartir, c'est super, t'as été une super candidate. Et alors comment ça se passe? T'as fait ta première année. Et ensuite, c'est. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais si ça s'applique aussi à d'autres secteurs de des universités françaises? C'est-à-dire, si t'es
Voilà.
en économie, est-ce que. Parce qu'on pense. Dès qu'on pense, en fait, année à l'étranger, on pense beaucoup école de commerce, parce que c'est dans le cursus, parce qu'ils encouragent, et c'est très bien, mais bah, comme beaucoup, tout le monde n'a pas les moyens, ni la volonté de faire une école de commerce. Personnellement, j'en ai pas du tout fait. Pourtant, ça m'a pas empêché aussi d'aller à l'étranger. Mais c'est intéressant de savoir. Qu'il y a cette possibilité-là ailleurs, est-ce que tu es au courant?
Oui. Voilà,
Ah, oh,
donc moi j'ai
super.
des amis qui étaient même en sciences, hein,
Ok.
qui ont réussi à partir. Il faut savoir que les échanges, ça se développe de plus en plus.
Ah.
C'est de plus en plus accessible. Et c'est de moins en moins, ils regardent de moins en moins les notes. Enfin, c'est-à-dire, si quand même il faut un minimum de travail, il hein, ne faut pas avoir 8 de moyenne, hein, je veux dire, il y a un
Ouais.
moment, voilà. Mais c'est pas forcément des têtes, en fait, c'est la motivation
Ah,
qui va
yes.
compter. Et moi, j'avais certes un bon dossier, mais c'était pas forcément pour ça qu'ils me prenaient. Je le savais parce que je faisais des lettres vraiment où j'organisais, si tu veux, ma lettre en disant c'est obligé que je parte pour mon projet professionnel. Tu vois, j'ai une détermination qui se ressentait vraiment dans ma lettre et dans mon CV.
Alors attends, excuse-moi, tu as fait une lettre, c'est quand tu dis une lettre, elle était papier écrite à la main?
Non, quand même, elle
Parce que
était
j'allais
sur
dire, ah
Word.
ouais, en effet, je dis merde, ça a vraiment pas évolué à l'université en France, la merde. Tu vois?
Non, une lettre, quand je dis une lettre, pardon, c'est une lettre de motivation.
D'accord, mais non,
Voilà.
potentiellement, moi je faisais mes lettres de motivation avec un papier et un crayon moi, à l'époque, hein, donc.
Eh oui, non, là, quand même, on est à l'ère numérique maintenant, hein.
C'est ça. Et en disant ça, je m'aperçois que je passe pour un mec, on a l'impression que je suis un scribe, tu vois. J'étais sur un papyrus et j'envoyais ça au grand chambellan. Non, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait.
Oui.
Donc en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'OK, il y a finalement tous les cursus qui peuvent prétendre à des échanges, qu'aujourd'hui, si je comprends bien, la majorité des universités françaises développent et continuent de développer des échanges universitaires, que c'est de plus en plus facile, et surtout, l'avantage, c'est que c'est plus basé sur les 5-6 premiers de la classe, c'est si t'es déter, comme on dit,
C'est ça.
c'est ça qui va basculer en fait, et qui va faire pencher la balance de ton côté, et pouvoir avoir, et décrocher le... Parce qu'en fait, c'est un nombre de places, comment ça se... En fait, c'est comme un
Oui.
concours, qu'est-ce qui se passe?
Oui, c'est un nombre de places, mais tu as plusieurs vœux. Donc voilà, si tu n'as pas eu la place dans ton premier vœu, tu auras ton
Ah.
deuxième vœu ou tu auras ton troisième. Alors après, il peut y avoir des frustrations par rapport au fait qu'on n'ait pas eu son premier vœu, etc. Mais aussi, la vie est bien faite, tu vois. Si tu n'as pas eu ton premier vœu, c'est peut-être que tu étais voué à aller en ton deuxième vœu. Bon voilà, après, il y a des choses, on ne contrôle pas tout, hein. Il faut aussi
Bien
faire
sûr.
confiance en la vie.
Je suis entièrement d'accord.
Et en fait, vraiment, ça se développe énormément. Et aussi, il faut être curieux. C'est-à-dire que moi, j'allais toujours chercher les profs de langue. J'envoyais plein de mails, en fait, à la direction internationale de l'université. J'allais chercher les infos. Et je posais plein de questions sur telle université. Je faisais beaucoup de recherches, en fait. Je faisais des recherches en amont, énormément, pour voir quel était aussi le cursus qui pouvait le plus ressembler au mien, parce qu'il faut un minimum que ça se ressemble quand même. Hein. Je veux dire, tu pars pas, tu fais pas des sciences pour ensuite faire de l'art plastique au fin fond des Philippines, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a des choses comme ça où il faut déjà activement, dès le mois de septembre, septembre-octobre, tu commences à faire tes recherches, en fait. Et ça, je pense, ça m'a beaucoup servi justement dans ma lettre de motivation. Ça avait vraiment quelque
Pour
chose de
avoir les vrais
logique.
arguments, pour avoir, ok, ce côté déterminé, je suis convaincu que c'est cette université-là, etc. Parce que
C'est ça.
on est d'accord que ce genre de demande et d'échange, c'est pas non plus l'auberge espagnole et tu y vas, et il y a un minimum, enfin, tu suis un vrai cursus une fois sur place. Alors pour moi, avoir, justement, je me souviens l'histoire des vœux, j'avais fait, moi c'était pour mon échange Erasmus, mais c'était pour 6 mois d'études et de stage à l'étranger, je mêlais les deux. Et je me souviens qu'il y avait les vœux, c'est pour ça que ça m'a fait rire. Et moi, bah, pour montrer ma détermination, tout le monde devait envoyer ses vœux, les trois premières villes qu'il voulait. Et moi, j'avais mis les trois choix, j'ai mis la même ville. Et du coup, bah, j'ai été pris direct, j'étais le premier à être pris sur cette ville, parce qu'on m'a dit, bon, bah, c'est toi qui le veux le plus, parce que tu t'as pas donné d'alternative, en fait. Et
Il y a cette stratégie aussi, ouais.
donc, bon, après, je sais pas si ça marchera à chaque fois, mais c'est ce côté finalement où, un, il y avait les vœux, et de deux, c'est vrai que sur place, les études que j'avais faites, c'était pas très poussé. J'étais pas très impliqué, que c'était pas très très grave, parce qu'il y avait beaucoup de stages. Est-ce que toi, par contre, une fois que tu es dans ce cursus-là, on est d'accord que tu vas à l'école comme les autres, en fait. Hein, tu vas, enfin, à l'école, à l'université, faire des études comme les autres. C'est un vrai cursus.
Oui, c'est une formation initiale, bien sûr.
Donc faut pas prendre ça à la légère non plus et de se dire, je vais partir faire la chouille tous les soirs et que c'est pas
Ah
grave pour les
oui,
cours.
bien sûr. Là, tu pars dans le contexte en France ou à l'étranger?
À l'étranger.
Alors, ah, bah justement,
Ah bah justement, j'ai un peu fait la fête, c'est vrai.
Oui, j'ai quand même fait la fête, mais c'est vrai que moi, contrairement à pas mal d'étudiants, je trouve, sauf en Thaïlande, mais bon, la Thaïlande, c'est aussi parce que c'est un peu un pays des possibles, hein. Mais pour ce qui est de l'Allemagne et de l'Angleterre, j'étais beaucoup plus focus voyage que soirée.
Ah.
Ce qui fait que j'ai fait moins de soirées finalement que de voyage. Enfin, j'ai la sensation d'avoir vu beaucoup plus de pays que la plupart des gens en échange.
Ouais, je vois.
Tu vois, après, bon, j'ai pas la prétention de dire que j'en ai fait plus qu'eux, mais c'est vrai que j'étais quand même beaucoup moins en
Ouais,
soirée.
ton budget et ton énergie, tu le mettais là-dedans.
C'est
Et
ça.
justement, j'aimerais qu'on y arrive sur cette partie voyage. Donc, tu as fait les démarches, tu as fait ton dossier. Ça prend combien de temps entre le moment où tu t'envoies ta lettre et le moment où tu bah, t'es sur place, en gros?
Ça prend bien 6 mois.
Ah oui.
5 mois peut-être. Ouais,
Et
5
ces
mois.
stages-là, ces échanges, c'est sur des échanges de 6 mois, 8 mois, 3 mois?
Alors, donc celui que j'ai fait en Allemagne, c'était un semestre. Donc je suis restée 5 mois
Ok.
jusqu'à février, donc de septembre à février. Ensuite, en Angleterre, c'était une année entière. Donc je suis restée de septembre à juin.
Génial.
Et la Thaïlande, donc pareil, de septembre à juin, c'était 2 semestres. Et en fait, tout en étant en Allemagne, ce que j'ai pas dit, c'est que je me suis inscrite dans une autre université, en fait, à Paris-Sorbonne.
Ok.
Et j'ai pu, du coup, prétendre à l'échange universitaire en Angleterre qui m'intéressait déjà depuis longtemps, donc à Manchester. Et alors, quand j'ai commencé, en fait, à faire mes échanges, je me suis tout de suite mis dans une dynamique, j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie de faire mes expériences, d'aller hors des sentiers battus, etc. J'étais super motivée. Et en fait, j'ai tout de suite remarqué la difficulté, si tu veux, de partir à l'aventure,
Ouais.
parce que, et après, il faut retourner en cours, hein. Tu vois?
Ouais, je vois.
Et en fait, j'avais un rythme de vie. Au début, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir, tu vois, partir comme ça, vagabonder. Et en fait, après, je me suis rendu compte que c'était pas moins bien, mais
Ah,
que c'était
intéressant.
un rythme à avoir, en fait. C'est-à-dire que là, je suis dans ma bulle, je pars 5 jours, peut-être je vais peut-être sécher un ou deux cours, on le dit pas.
Ouais.
Et
OK.
après, je reviens et bim, et je me remets dans le travail et je rattrape. Donc, c'est un rythme où vraiment, tu as un quotidien sans avoir un quotidien, mais il faut savoir que c'est très fatigant et émotionnellement puisant parce que tu voyages et puis, bah, en fait, lundi, il faut que je sois en cours, quoi. Tu vois?
Ouais, je vois.
Et en fait, en trouvant mon rythme comme ça, je me suis vraiment plu finalement. Et c'est ça qui m'a motivé à continuer de faire des échanges et à postuler. Et bon, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts, notamment, et je vois les gens qui partent à l'aventure vraiment, qui font des trucs de fou. Faut savoir que tu n'auras pas ça, hein, si tu
Mais en fait, ce qui
pars.
est intéressant justement, c'est de se dire, je pense que les gens qui veulent aller dans une étude universitaire à l'étranger, c'est aussi de vivre un autre quotidien, c'est juste de se sentir immergé pendant plusieurs mois dans une autre culture, voir ce qui se passe ailleurs. Et c'est ça qui est fantastique, c'est ça moi qui chez moi a planté vraiment la graine du voyage. Et justement, ça a été, j'aimerais qu'on revienne sur les trois pays que tu as fait. Et déjà, si donc il y a, si je dis pas de bêtises, il y a l'Allemagne, il y a Manchester et il y a la Thaïlande, qui ont été les trois gros pays. Si tu veux déjà, on est un petit peu à pyramide, tu vois. Tu sais, le jeu à l'ancienne pyramide.
C'est ça.
Alors en trois, comment tu décrirais ton expérience en Allemagne justement, en tant que justement étudiante en Allemagne. Vraiment, c'est sous cette projection-là, en trois mots.
Discipline,
Ouais.
épanouissement universitaire,
Ok.
chaleurosité.
Chaleurosité. Eh
Ouais,
ben, on
les
dirait moi
Allemands.
qui crée des mots.
Mais si, ça
La
se dit en plus.
chaleurosité, ça, en même temps, si t'es en lettres, c'est peut-être pas à toi que je vais apprendre les mots. Ok.
Oui, chaleurosité, ça se dit avec un O en plus.
Ah, mais du coup, j'aurais pas cru que l'Allemagne était ambiance chaleurosité, tu vois.
Si, bah en fait, moi j'ai eu la chance d'arriver dans une période où tu sais, c'était l'hiver et t'as les marchés de Noël, t'as la neige,
Ah.
t'as les raclettes, t'as
T'étais dans quel coin?
les. J'étais à côté de Düsseldorf.
Ok, putain, pas en plus la ville où je me serais dit, viens, on va s'éclater là-bas.
Ah si, c'est vraiment sympa. Et après, j'ai pas mal voyagé en Allemagne, donc je suis allée à Bremen, je suis allée à Halle-Saale, je suis allée à Hambourg, je suis allée à Berlin. Bon voilà, j'ai pas mal bougé. Et c'était vraiment cette chaleur des Allemands à prendre son petit vin chaud sur les marchés de Noël, à rencontrer du monde. Enfin si, c'est vraiment un pays où on a le sourire quand même. Après, et aussi on s'épanouit scolairement parce que c'est hyper interactif.
Ah.
Les cours sont hyper interactifs
C'est-à-dire?
et bah en fait c'est vraiment les élèves, enfin les étudiants qui font le cours, hein. C'est-à-dire que
Alors, faut que
le
t'expliques parce que par rapport à des gens qui sont en France et qui sont dans la réception et dans le je me gave d'une info qu'on me donne et que j'ai pas le choix, ça veut dire quoi en fait?
Et bah tout simplement en fait faut savoir que les Allemands dès le plus jeune âge, les professeurs ont une pédagogie, ils posent énormément de questions.
Ah, aux élèves.
Ouais. Et tout le monde doit participer, hein. C'est-à-dire que s'il y en a un qui participe pas, il va y passer. Et ça, du coup, l'étudiant arrive à prendre énormément confiance en lui et spontanément gagner en maturité.
Contrairement aux
Et
profs français qui cassent les élèves dès qu'ils disent pas une bonne réponse. C'est bien
voilà,
ça.
Et en fait, il y a une espèce de... on crée, si tu veux, chez les Français, un complexe d'infériorité en favorisant ceux qui sont très bons et en rabaissant ceux qui sont moins bons. Voilà, par exemple, moi, j'ai toujours été choquée en anglais, où moi, j'avais des facilités et on m'interrogeait beaucoup. Alors que celui qui n'arrivait pas à aligner trois mots, on l'interrogeait jamais. Et quand on l'interrogeait, c'était en mode, c'est pas terrible.
On passe à autre chose, ouais. Et du coup, en Allemagne, là, c'est l'inverse.
C'est vraiment tout le monde participe. Et puis, du coup, il y a des blancs. Alors, ça peut être gênant parce que pour les Français, parce que souvent, si tu réponds pas, il y a vraiment un blanc. Hein. Le prof, il attend. Tu vois, comme ça.
Ah ouais.
Et il attend. Et tant que t'as pas répondu, en fait, on continuera pas le cours. Hein.
Ah, c'est bon ça.
Voilà, donc c'est vraiment une pédagogie très tournée vers l'humain. Et en fait, les Anglais aussi sont quand même un peu comme ça. Mais j'ai trouvé que les Allemands participaient beaucoup plus par rapport à tous les pays où j'ai été. C'était vraiment les Allemands où ça dépote, quoi. Hein, pendant le cours,
alors, c'est bien la première fois que j'entends que les Allemands, c'est des mecs qui parlent beaucoup et qui sont dans l'interaction, quoi. Tu vois, comme quoi. Comme quoi super intéressant.
Et sur des sujets intellectuels, en fait. Voilà, en cours, ils vont.
C'est peut-être parce qu'on est trop con pour eux, effectivement. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas trop. Justement, je reviens sur le petit jeu. Manchester, en trois mots.
Classe.
Ok.
Gentillesse. Et. C'est difficile. Et. Ambiance particulière.
C'est-à-dire
un peu. Pour moi. En Angleterre, en fait, j'y suis allée un peu avec des préjugés.
C'est-à-dire ?
Par rapport au paysage.
Que ça va être moche, en fait.
Non, mais où je me disais, voilà, ça reste le nord de l'Europe, etc. Dans ma tête, ça allait pas être époustouflant.
Ouais.
Et puis, en fait, j'étais dans une région à côté du Lake District, du Peak District. En 2 heures, je pouvais aller sur la côte est, à Robin's Hood Bay. Enfin, et en fait, j'ai vraiment découvert des paysages somptueux.
Ouais, parce que là, parce que quand tu dis les trucs un peu, tu vois, on a du mal à se représenter. Si les gens qui nous écoutent, ils mettent en plus de leurs écouteurs un casque de réalité virtuelle, ils verraient quoi en fait autour de tous ces lieux ?
De magnifiques collines vallonnées, des montagnes, des lacs perte de vue, des forêts à perte de vue.
Ah ouais ?
Et une odeur boisée en permanence. Enfin, vraiment, on a une ambiance particulière en Angleterre et notamment, alors j'ai été encore plus émerveillée quand je suis partie donc en Écosse.
Ouais.
Je suis partie dans les Highlands et je sais que tu as été aussi.
Ouais. Endroit que je recommande.
Ouais. Et j'ai trouvé ça incroyable. En plus, j'y suis allée donc au niveau en automne avec des couleurs. Donc tu avais du orange, du rouge, du jaune partout. Et avec une eau bleue, enfin c'était vraiment époustouflant. Et je sais pas, il y a un truc en Écosse où vraiment la terre, tu te sens vraiment dans le moment présent.
C'est vrai.
Je sais pas, il y a une énergie.
Tout est ralenti, ça t'ancre.
C'est ça. Et tu te sens vraiment, tu as l'impression de communiquer avec la nature, c'est assez incroyable.
C'est vrai.
Et j'ai découvert donc cette partie-là, si tu veux, de l'Angleterre. Enfin là, on n'est plus en Angleterre, du coup, on est en Écosse, mais. Et vraiment, tous les stéréotypes que j'avais en tête, ils sont tombés.
Ouais, mais c'est ça qui est super intéressant aussi, c'est de se dire, c'est prendre le temps de vivre les choses autrement, d'aller. C'est toujours pareil, tu vas parler de Paris à un Parisien, il va pas te dire forcément la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, il va te dire ses petits lieux à lui, il va te faire découvrir ce que lui il vit au quotidien, ses expériences. Et l'avantage de vivre sur le long terme quelque part, c'est que souvent en plus quand c'est dans les premiers voyages, on tombe très facilement amoureux de ce lieu-là parce que ça te fait découvrir quelque chose de différent, ça te fait vivre un autre quotidien, ça te fait t'imprégner au final. Le décor importe beaucoup moins que l'expérience que tu es en train de vivre. Et si, comme tu dis, en plus de ça, tu rajoutes quelques petits lacs, de la forêt, une odeur boisée, bon, tu vois, finalement, en général, on en garde un bon souvenir.
C'est ça. Même dans les moments où je trouvais que le climat, j'en pouvais plus.
Ah, quand même ! On en est là, quand même, à Manchester. Il pleut.
Il pleut. À un moment, on est parti justement au Lake District avec mon ex-compagnon, donc, qui était anglais. Et on s'est retrouvés à faire une marche. Dans la campagne, en fait, à côté du Lake District, au milieu des champs de moutons, et il pleuvait, et il faisait froid. Et j'étais là avec mes bottes, j'étais avec mon parapluie, et je lui dis, mais c'est pas possible, on va pas faire une randonnée comme ça. Et j'explose de rire. J'explose de rire dans le champ, je lui dis, mais regarde comment on a froid! Et là, il me dit, ouais, je sais, mais bon, c'est pas grave, c'est l'aventure, allez, on y va! Et en fait, j'ai passé un super moment et t'avais tous les moutons qui nous regardaient en mode, mais ils sont tarés, quoi, je veux dire.
Nous, on n'a pas le choix, mais vous, les gars, qu'est-ce que vous faites là, quoi?
C'est ça.
Mais en fait, tu mets le doigt sur un principe qui est pour moi ultra important en voyage, c'est que souvent, les gens s'arrêtent devant la difficulté, devant l'inconfort. Et en fait, ceux qui ont franchi régulièrement et souvent cette petite obstacle-là, eh ben en fait, ils se sont aperçus que ce n'était pas un obstacle en fait, auquel tu arrivais derrière, c'était une marche en fait. Dans le sens où, quand
Exactement.
tu franchis ce désagrément, tu t'aperçois que ce qu'il y a derrière, c'est pas retomber derrière la palissade de cet obstacle, c'est juste que tu as monté en plaisir, en bonheur, en bien-être, en émotion, en toi, en termes d'exaltation. Et c'est ça qui est fou en fait, c'est que t'as un bien meilleur souvenir de quelque chose que t'as un peu surmonté de désagréable et que finalement tu t'es tellement ancré dans l'instant présent à dire je m'en fous et t'as lâché prise. Et ce qui fait que le sentiment que ça va te procurer, il va être beaucoup plus puissant qu'une petite balade où t'as tout prévu, tout s'est bien passé, qui va peut-être passer
Exactement.
beaucoup plus inaperçu même pour toi ou dans ton souvenir. Et ce sentiment-là, en fait, d'inconfort est souvent synonyme de très grand confort derrière, mais de confort de
Exactement.
l'esprit. Et c'est du donnant-donnant, en fait. C'est pas genre, ben, tu fais pas beaucoup d'efforts, t'as un petit kiff et c'est bien. Tu fais un gros effort, t'auras un grand kiff. Et je me souviens, moi, des lieux hors sentier battu. Et moi, tu vois, quand je sillonnais un peu aussi les pays avec le guide du Routard ou le Lonely Planet, et ben, en fait, les lieux qui étaient genre 13 hors sentier battu, mais qui étaient mentionnés, mais ils disaient, ouais, c'est 6 heures de bus, c'est machin. Ben, en fait, c'était mis en avant autant que les spots. Qui était connu, mais en fait, quand t'allais sur place, il n'y avait personne parce qu'ils disaient, oh non, ça c'est chiant pour y aller, ça a l'air d'être cool, mais vas-y, viens, on n'y va pas, ou il y a de la marche. Alors qu'au final, c'est ça qui me laissait souvent les meilleurs souvenirs. Et cette rando-là que tu disais sous la pluie, je pense que c'est un super symbole, ça représente très bien ce qui pour moi est important, c'est de finalement où est l'inconfort, où est la difficulté, et ben on va y aller en fait, parce qu'en fait derrière ce qui va se passer, c'est que ça va être encore plus fort que ce que moi j'attends. Donc
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, ça, je l'ai bien vécu, notamment au Laos. Donc, quand j'ai voyagé depuis la Thaïlande et juste après le Nouvel An, en fait, je suis partie une semaine en challenge sportif.
en challenge sportif, c'est-à-dire
Ouais,
au
donc
Laos.
j'ai fait le Vang Vieng Challenge.
Alors
Et
perso, je connais
un.
Vang Vien, quand j'y suis allé, le challenge c'était pas du sport.
Ah
C'était
ouais?
plutôt à base d'alcool et de baignade dans la rivière. Mais je crois qu'ils ont arrêté ce truc-là maintenant à Vang Vien.
Ouais, non, moi c'était plutôt le truc où tu escalades des montagnes comme ça.
Ouais, ils sont très branchés à escalade, il y a des super spots là-bas.
C'est ça. Et en fait, au début, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Alors, je suis quand même assez sportive, tu vois, j'ai toujours fait du sport, mais je savais pas trop. Bon, voilà. Et en fait, c'était deux potes mecs qui me disaient, allez, on fait ça, on se
On
fait
s'est
un
chauffé.
challenge dans les montagnes. Je dis, ouais, pas de problème. Et puis là, j'arrive. Et deux autres mecs super baraques. Donc en fait, j'étais la seule fille avec quatre mecs baraques pour faire un challenge sportif. Alors je savais pas trop à quoi attendre. Je me dis, dans quoi je m'embarque? Pourquoi je fais ça? Puis
Et
je
en
voyais
fait,
qu'on mettait.
c'était quoi du coup le challenge?
Eh bah, ben si, c'était super dur. Alors il fallait vraiment monter en fait donc des montagnes très abruptes.
Ok, mais c'était quoi? C'était un cross? C'était des...
C'était sur 2 jours en
Ah ouais.
fait où tu montes. Donc les montagnes, et en fait le deuxième jour tu descends tout en rappel en tyrolienne.
Ah, sympa ça.
Ouais.
Ah, ça
Au-dessus de
c'est
la
pas mal.
jungle et tout, c'est incroyable. C'est
Incroyable.
vraiment, ouais. Et devant la première difficulté, donc qui était la randonnée de quelques heures, donc sur voilà sur des montagnes vraiment très abruptes, mes mollets hurlaient, enfin j'en pouvais plus, je me disais mais je vais jamais y arriver quoi, c'est beaucoup trop abrupt. Et puis là t'as 3 heures d'escalade en plus de ta randonnée. Et t'es à 1000 mètres d'altitude. Et moi qui ai un peu le vertige et tout, et je tremblais, j'avais les bras. Je me dis, mais je vais jamais y arriver, mais c'est pas possible en fait. Et j'escalade tout ça. Et puis il y a les rivières. Et là, tout de suite, je me mets en mode, ok, au lieu de te dire j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, ressens les choses. Et là, je commence à ressentir. Je commence à ressentir les feuillages qui bougent. Je commence à entendre le ruisseau. Je commence à. Et là, tout de suite, je tremble plus, tu vois. Et là, je monte. Je monte, je monte, je me concentre sur la technique, hein, où il faut voilà, s'accrocher à chaque fois. Et puis là, on arrive tout en haut, à la cabane. et une vue monstrueuse. Monstrueuse, t'as ces roches en fait vertes, et t'as le soleil qui se couche, une couleur orangée, des plaines vertes à perte de vue. Et t'as grimpé pendant 6 heures et t'en pouvais plus, tu savais pas ce que t'allais voir au bout, mais là je peux te dire qu'une fois que t'as la vue, tu comprends pourquoi tu l'as fait.
Tu comprends pourquoi tu l'as fait, et tout de suite en finale ça a eu encore d'autant plus de valeur une fois que t'es arrivé là-bas. Justement, maintenant qu'on est en Asie, les trois mots pour résumer, selon toi, la Thaïlande ?
Exotisme.
Ouais.
Aventure. Dépaysement.
Ah. Et justement, comment t'as fait pour aller en échange universitaire en Thaïlande ? Parce que je pense que dans l'esprit des gens, y aller en Allemagne ou en Angleterre, c'est quelque chose qui finalement, tu vois, ça se conceptualise assez bien. Aller en Thaïlande, donc c'est-à-dire que tu ne débourses pas de frais d'inscription, c'est grâce à cet échange-là que c'est pris en compte.
Tout à fait.
Bon, par contre, il faut que tu te loges et que tu te nourrisses, j'imagine.
C'est ça.
Mais il n'y a pas les grosses inscriptions, parce que même en Asie, les écoles sont payantes. Comment ça se passe ? T'as pris, justement, tu disais, t'as d'abord trouvé en fait l'université dans laquelle tu voulais aller à l'étranger, et t'as cherché l'université française avec laquelle c'était relié, ou inversement ?
Alors, c'est-à-dire que quand j'étais à Manchester, je me disais, je suis encore trop... Enfin, ok, je vis quelque chose de super enrichissant,
ouais,
mais je suis encore trop dans ma zone de confort, là. Tu vois, je disais, ça reste l'Europe, j'ai quand même mes habitudes de petite européenne, je vais prendre mon café, je me lève le matin, je suis pas fatiguée.
Le seul truc d'exotique, c'était qu'il roulait de l'autre côté, quoi. Donc, tu t'es dit,
c'est un peu ça, ouais.
Bon.
Et en fait, je me suis dit, dès le mois de décembre, j'ai commencé à chercher des partenariats hors Europe. Sauf qu'il fallait que ce soit anglophone. Donc, je réfléchis. Et puis là, je vois le Canada, les États-Unis. Mais j'avais encore besoin d'encore plus de dépaysement, tu vois. Et je tombe sur l'Asie du Sud-Est.
Et mais comment ça, tu tombes ? Tu tombes comment, en fait ? C'est
ah
ça.
Oui, alors, je fais toujours ces recherches. Donc, comme j'étais inscrite à la Sorbonne,
ouais,
je regardais tous les partenariats de la Sorbonne,
okay,
avec des universités anglophones.
D'accord.
Voilà, donc ça, c'est ils ont des tableaux qui sont très bien faits.
Ah, c'est sur le site de l'université à chaque fois ?
Ou sur le site où j'envoie mes mails toujours à la direction internationale. Ils me connaissent par cœur. Hein. C'est, dès qu'ils voient Anaïs.leduc...
c'est Anaïs, tu lui as préparé son PowerPoint ou pas ? Laisse tomber.
C'est okay. Ça. Et en fait, donc j'avais vu que j'avais une opportunité à Singapour et en Thaïlande, à Bangkok. Et donc, je leur envoie voilà, mes questions et j'étais éligible. Mais j'étais éligible, mais ils m'ont tout de suite découragée. Ils m'ont dit, les LEA, les masters, on n'aime pas les faire partir.
Bah ouais, c'est vrai que les langues étrangères, partir à l'étranger, c'est chiant quand même. Là, mais on sent que les conseillers d'orientation, ils sont plutôt bons en France. Là, ils ont le pif, tu vois, pour tout de suite détecter ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas.
Non, mais en master, en fait. C'est-à-dire qu'en licence, c'est plus simple de partir qu'en master.
Okay.
Il m'avait dit le master, voilà, c'est particulier parce qu'en fait, faut savoir qu'en master LEA à la Sorbonne, on a 12 mois de stage. Hein.
Okay.
Donc, c'est-à-dire que c'est un an de stage. C'est-à-dire que tu fais 6 mois la première année, 6 mois la deuxième année.
Okay.
Donc, déjà là, tu pars sur un mauvais pied en mode ouais, je veux partir toute l'année étudier. Bon, voilà. Et en fait, et elle m'a dit non, mais vous pouvez quand même toujours voilà, postuler. Et là, lettre de motivation, on repart dans le même truc, CV, les dossiers, les traductions, tout ça.
Ah, et... parce qu'il faut tout faire traduire dans la langue du pays,
ouais.
Ou en anglais, j'imagine,
ouais,
ou si c'est en Allemagne, c'était aussi en allemand.
Oui.
Ah ouais, oui, sympa.
Oui, tout à fait.
Et en Thaïlande, fallait faire traduire en thaï aussi, non ?
Non, c'est anglophone. Du
ok.
coup. Et donc j'avais vu ces deux universités là, et j'ai été prise en fait. J'ai été prise. Donc là, je pars
génial.
Sur deux semestres. Et voilà, j'avais vraiment ce besoin de sortir hors Europe, encore plus loin, hors de ma zone de confort. Dans une université thaïlandaise.
Et justement, comment ça se passe un quotidien d'étudiante étrangère en Thaïlande ? T'étais à Bangkok ? T'étais où ailleurs ?
Ouais, j'étais à Bangkok.
En plus.
Et alors, le quotidien, c'est qu'il faut savoir qu'en master, les Thaïlandais, ils ont cours le soir ou le week-end.
Sérieux ?
Parce qu'ils travaillent, en fait.
Ah.
Et toi, t'arrives, t'as 12 heures de cours par semaine, c'est le soir ou le week-end. Tu fais OK.
J'ai pas compris, c'est inversé, c'est pas que c'est comme la conduite en Angleterre, vous avez fait à l'inverse.
Exactement. Et donc ce qui fait que tu as des journées libres, moi j'avais des week-ends de 4 jours. Hein.
OK.
Donc, alternative, cours, voyage, tout le temps. Vraiment tout le temps.
Ouais, t'as sillonné
Et
tout
en
le pays et les
plus,
alentours.
c'est ça. Et en plus, depuis Bangkok, bon, clairement, tu peux aller partout,
Clairement.
facilement. Donc, c'était vraiment, vraiment super top. Et un quotidien aussi assez déroutant, parce qu'en Thaïlande, c'est vraiment très, 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 très différent de tout ce qu'on voit. Et ils ont une manière de travailler qui est plutôt concrète. On a beaucoup d'études de cas,
OK.
beaucoup de travaux de groupe. Et c'est assez marrant, voilà, de travailler avec les Thaïs parce qu'ils ont une autre manière, si tu veux, de travailler dans la mesure où ils sont beaucoup plus détendus par rapport aux délais, par rapport aux consignes. C'est beaucoup plus libre, en fait.
Ouais, et beaucoup
Et
plus de lâcher prise, au moins prennent moins au sérieux que nous, quoi.
My Penarai, ça veut dire
T'en fais pas.
t'inquiète.
Ouais, t'inquiète.
Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui était assez drôle, c'est que je suis arrivée en septembre pendant la période de mousson. Et ouais, donc septembre, octobre. Et là, t'hallucines parce que t'as tous les étudiants en échange qui, quand ils sont en cours et qu'il y a des gros orages, des déluges, des trucs, enfin, nous, on regarde la tempête, quoi. On peut pas suivre le cours, en fait. C'est vraiment impressionnant, tu vois, les gros orages et tout,
Ah ouais.
c'est ouais. Et en fait, le prof continue de faire cours, tu vois, il continue de parler comme ça, comme si, y avait pas la tempête. Et t'as tous les Thaïs qui écoutent et tous les Européens qui regardent dehors.
Genre, qu'est-ce qui se passe?
C'est ça. Et ça, c'est une image que je garde en tête comme étant vraiment une différence culturelle
Genre, ah ouais,
liée
genre,
au
c'est pas
climat.
pareil chez toi et chez moi quand il pleut et que du coup, moi, ça me scotche. Est-ce que quand t'arrives à Bangkok aussi, j'aime bien rendre le truc pratique, comment tu fais pour trouver un appart? Parce que entre trouver une auberge de jeunesse, ça je sais bien faire, ou une guest house, ça c'est bon. Trouver un appart, une location sur plusieurs mois, est-ce que tu avais des places du coup dans l'université? Parce que l'échange fait que tu as un spot dans, je sais pas, dans le campus. Comment ça se passe?
Alors, en fait, moi j'ai contacté une personne qui avait déjà été en échange dans cette université-là,
Bon process, bonne idée ça.
notamment en demandant à la direction internationale, tu vois, comme quoi on s'échange beaucoup de mails.
Ah oui, t'es d'accord, c'était d'accord, c'était tu prenais le café avec elle en fait.
C'est ça, je l'ai sollicité tout le temps. Et du coup, elle m'a passé donc ce contact-là. Et elle m'a tout de suite donné en fait le numéro d'un agent immobilier qui s'occupe des étudiants à Bangkok.
Ah.
Ouais. Et en fait, il m'a conseillé un appart à côté de l'université, parfait, dans un condo avec piscine, salle de sport. Bon, voilà, c'est une vie de luxe, hein, là-bas.
Et c'est quoi justement les loyers pour la superficie et surtout les pièces à justifier?
C'est environ 400 euros pour un studio de 30 mètres carrés.
Ah ouais, c'est pas peu cher. C'était un peu dans la
Ouais.
partie luxe finalement de
Bah
Bangkok,
oui.
on va pas se le
Oui, c'est
cacher.
quand même dans le luxe. Et puis bon, après, tu as une piscine, une salle de sport, des gardes. Bon,
Ok,
c'est
ouais.
clairement
C'est du high
justifié, hein,
level.
bon.
Ouais.
C'est ça. Donc, c'était un très, très beau logement. Mais bon, je regrette peut-être un petit peu parce que j'ai tellement voyagé en Asie
Ouais, que
que
t'avais.
j'étais
T'étais jamais
quasiment
chez toi.
chez moi. Ouais.
Et qu'est-ce qu'il faut comme papier pour justifier, pour pouvoir avoir cette magnifique appartement de luxe?
Bah, rien de spécial. Juste
Du cash.
ton. Ouais,
T'as
de
du cash?
l'argent.
C'est bon.
C'est ça. Non, juste une preuve que tu es bien à l'université de Mahidol,
Ah,
enfin
ils demandent
là
pas
où
des
j'ai
garants ou des choses comme ça, ou des extraits de compte, c'est pas comme en France
passé.
où
Non,
finalement tu lâches
juste
un rein pour
caution.
avoir ton dossier accepté. Ok, caution.
Juste caution. Voilà, ça c'est important.
Et du coup, ben, si ça te dérange pas, on mettra aussi, pour ceux qui le souhaitent, les coordonnées de. On lui fait de la pub, hein, je le connais pas ce monsieur, mais si tu dis que c'est un bon agent immobilier, on mettra les coordonnées pour ceux qui cherchent un appart à louer en Thaïlande. Je
Yes.
pense que c'est aussi ça. Comment tu fais aussi pour te déplacer? Parce que là, je pense que quand on se déplace, on prend les bus d'une ville à une autre, on marche beaucoup quand on est en voyage, mais quand tu es dans ton quotidien. Il y a un moment, tu vas pas prendre le tuk-tuk tout le temps, surtout qu'il te carotte tout le
Ah
temps,
bah
donc
non.
t'en as marre, ou ni le taxi, tu vas essayer de prendre le bus.
Alors j'ai pris des bus, effectivement.
Mais pas beaucoup.
Pas beaucoup parce que la circulation dans Bangkok, c'est juste pas possible.
Ah, donc c'est quoi, c'est moto-taxi?
Moto-taxi.
Ah, c'est la
Voilà.
vie, ok.
Et c'est pas très cher. Alors après, c'est vrai qu'accumulé, je dépensais bien 80, entre 80 et 100 € par mois de transport. Hein.
Ah
C'est
oui!
cher. Et ouais.
Ah ouais, mais parce que
Et
t'étais
ouais,
tout le temps, tu
parce que
te
je
déplaçais
prenais.
qu'avec ça.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, accumulé. Bon, après, je sortais vraiment beaucoup. Hein. Je faisais beaucoup de choses. Tu peux faire un peu moins, tout ça, rester à la piscine, chill. Moi, c'était vraiment tout le temps, tout le temps. Donc forcément, oui, c'est revenu cher à la fin.
Est-ce que tu as des petits moments à nous raconter à Bangkok? Parce que quand on dit j'ai vécu 6 mois ou 1 an à Bangkok, quand forcément dans notre tête il se passe des choses, tu vois. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes, des petites histoires que tu es en possibilité de raconter et de nous partager ou pas? qui sont
Ben,
sympas.
j'ai dans Bangkok.
Ah ouais, dans Bangkok.
Dans
Il y
Bangkok,
a dû s'en passer, non?
oui, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. J'ai rencontré du monde, notamment un pilote d'avion, ça c'était assez marrant. Mais sinon, bah justement par rapport au moto-taxi, en fait, un jour où je commande mon Grab, etc., moto-taxi, donc Grab c'est l'application, voilà, pour comme un Uber en fait.
C'est le Uber des mototaxis ou
En
des taxis
Asie, ouais,
d'ailleurs.
c'est ça. Et puis en fait, il arrivait donc sur mon appli, et là je vois une moto passer. Je me dis, ah bah c'est lui. Et du coup, il s'arrête. Je me dis, bon bah c'est d'autant plus lui s'il s'arrête. Et puis je monte derrière et tout, et puis il part. Et là, je vois, il sait pas où aller, tu vois. Je dis, t'as ton téléphone? Et je vois, il a pas son téléphone. Et je dis, mais tu sais où aller? Et il me dit, bah non. Et là, je comprends que c'est pas grave, tu vois. Il me dit, oh, désolé, et tout. Et puis on n'arrivait pas à se comprendre. Moi, je parlais pas trop thaï à ce moment-là, parce que j'ai appris un petit peu de thaï après. Et bon voilà, t'as ce genre de petite anecdote où
Ça va, ça reste soft pour Bangkok. Ça reste soft pour Bangkok. Est-ce que justement, je mets un peu le nez dans les anecdotes. Est-ce qu'il y a, tu sais, est-ce qu'il y a des anecdotes qui t'ont, à travers ces 2 années à l'étranger d'études, qui t'ont marqué, soit qui t'ont apprise, qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait apprendre à mieux te connaître, qui te tout de suite qui te viennent en tête en fait quand je te dis, tu vois, est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué pour parce que ça t'en a tiré une leçon, est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête?
Oui, si, il y en a. Notamment un voyage que j'ai fait en Birmanie avec deux amis belges. Et on est parti donc un peu à l'aventure. On a quand même fait un parcours avec des bus de nuit, etc. Et puis un jour, on a fait un trek entre Kalo et Inle. Donc c'est. Ouais, tu connais peut-être.
Oui,
Entre
c'est entre le
deux.
lac Inle, qui est un des main spots de la Birmanie, et Kalo, qui est une jolie ville, mais justement du départ des randonnées.
Voilà, et on a fait un trek. Ben justement, on ne voulait pas faire le trek que tout le monde fait. Et on s'est renseigné auprès de l'auberge jeunesse qui nous a consigné donc, un guide. Et on est parti donc, en trek. Et en fait, c'était le jour de Noël.
Ah, ok.
Ouais, c'était le 25 décembre. Et.
Putain, ton histoire attend. T'as rencontré le Père Noël en Birmanie, c'est ça? Non, mais
Oui, non,
ok.
mais j'ai eu mon plus beau cadeau, par contre.
Oh, là, il y a du teasing, ok.
J'ai eu mon plus beau cadeau. Et en fait, on arrive, donc on fait, je sais plus, 15 bornes de marche quand même. Et avec nos sacs et tout. Et alors, la Birmanie, c'est très coloré. Tu vois, tu as beaucoup de rouge, tu as beaucoup de poussière. Mais c'est vraiment très, très beau. Hein. C'est une très belle région, extrêmement riche, extrêmement fertile. Et on arrive donc au homestay, donc là où le guide avait prévu de nous faire passer la nuit, donc dans un village où tu retournes 100 ans en arrière, quoi. Mais vraiment. Donc, bon, déjà, on était les seuls blancs, donc forcément, bon, ça attire les regards.
La curiosité.
Et c'est ça. Et tous les enfants et tout qui viennent. Alors, moi, en plus, bon, j'ai un appareil photo. Alors, t'avais des attroupements autour de mon appareil photo où je montrais les photos. Enfin, c'était
Génial.
super émouvant comme moment.
Ouais.
Et en fait, oui, tu retournes 100 ans en arrière parce que l'eau, bah, en fait, ils la stockent pendant 6 mois grâce à la pluie. Ils ont des toilettes turques au fond du jardin. Ils n'ont pas de douche. Enfin, ils ont pas d'électricité suffisamment pour charger un téléphone. Tu vois, c'est vraiment ils cuisinent par terre au feu à l'ancienne. Et de les voir aussi heureux dans la simplicité, ça m'a vraiment vraiment touchée pour le coup. Ou parce que moi, c'était une journée où, enfin, le soir notamment, où je me suis sentie un petit peu triste
Ok.
parce que j'étais voilà loin de ma famille, loin de mes amis. C'est le soir de Noël. Bon, voilà, même si je suis avec mes amis belges, c'est quand même pas pareil, tu vois.
On les aime bien les amis
Et
belges quand même, ils sont sympas les Belges.
ils sont sympas, mais bon,
Mais
voilà,
il
après,
manque,
c'est.
ça manque la famille.
Voilà, il manquait quelque chose. Et puis, tu sais, j'étais un petit peu grognon, un peu fatiguée. Bon, voilà,
Ouais.
ça arrive. Puis, on va se coucher. Alors, on dormait sur un matelas vraiment tout fin, sur des planches de bois. Et bon, je passe une mauvaise nuit. En plus, il fait très, très froid. Bon, bref, je commence vraiment à être grognon, en mode, j'ai pas mon confort, c'est Noël, tu vois. Un petit peu
Ouais,
l'européenne qui parle, quoi.
bien sûr.
Et puis là, à 4 h du mat, je me lève pour aller aux toilettes. Et je sors de la maison. Et là, je vois un ciel, mais étoilé. mais comme j'ai jamais vu de ciel, quoi. C'était vraiment incroyable, des milliards, des milliards, des milliards d'étoiles que tu voyais. Et ça scintillait. Et en plus, je voyais même la forme de la Terre arrondie, en fait, sur le ciel. Et en plus de ça, en fait, en Birmanie, enfin en Asie en général, ils se lèvent très très tôt parce qu'ils sont calés sur le soleil et ils se couchent très tôt. Et il y avait un des membres de la famille qui commençait déjà à faire le petit-déj, en fait, qui avait fait un grand feu au fond du jardin et qui était accroupi comme ça, derrière son feu. Et là, t'entends le feu qui crépite et tu vois le ciel étoilé. Et là, j'en ai pleuré, quoi. Tellement, j'ai même la petite émotion là. Tellement, j'ai trouvé ça beau. Et je me dis, je suis hyper grognon et tout, tu vois, dans mon confort européen, à penser que voilà, c'est Noël. Et au final, j'ai eu le plus beau cadeau à 4 h du matin, le 25 décembre, quoi.
Ça, c'est bon, ça. Et en fait, ce que ça t'a apporté, c'est un retour aux valeurs essentielles, comme ça. C'est ça
C'est
qui est
ça.
important. Est-ce qu'il y a
C'est
d'autres
ça.
anecdotes comme ça qui t'ont, où tu t'es dit, grâce à ce moment-là ou cette rencontre, j'ai appris, j'ai grandi ou j'ai évolué? Il y en a d'autres?
Ouais, il y en a d'autres aussi où, bah, pareil, je suis partie faire un tour de jungle avec quelqu'un.
Ouais, il y en a qui font le tour du jardin des plantes, d'autres le tour de la jungle. Je préfère le tour de la jungle, personnellement.
Ouais, c'est un peu plus vivant, disons.
C'est ça, il y a un peu plus de bruit.
Et en fait, j'avais très peur, si tu veux. Initialement, j'avais fait un autre voyage en Thaïlande, dans le nord de la Thaïlande avec des amis, dans la partie nord-est. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés dans cette région, donc c'est vers, c'est pas Thonburi,
Kanchanaburi.
c'est pas Kanchanaburi, c'est là où il y a les parcs de Puruweang et Puruwea.
Non mais là là, même moi j'avoue je c'est pointe-le-nous, c'est au nord,
Voilà,
sud.
c'est nord-est.
OK,
En
nord-est.
fait, c'est une région qui est très 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 peu touristique.
OK.
Et on était allé déjà là initialement, et en fait j'avais eu pas mal de peur pendant ce voyage parce qu'on était bien sorti hors de nos zones de notre zone de confort, tu vois. On était allé tout seul dans des parcs où il y avait des éléphants sauvages, sans guide.
Ah oui, d'accord.
Ouais.
C'est pas très malin ça, c'est bien ça. La la
Donc
la la la. Tiens, tiens, un
oh,
éléphant
un
qui est en train de nous
éléphant.
charger, qu'est-ce qu'on
Oh
fait?
merde.
Ah non, d'accord. Ok, je
Exactement.
comprenais pas parce que je dis la Thaïlande c'est quand même super safe. Effectivement, c'est ok, c'est aller en pleine
Voilà.
nature avec dans un endroit donc personne n'est expert.
C'est
Ok.
ça. Donc effectivement, là où même on a même croisé un éléphant et tout, et en plus apparemment dans ces parcs-là, il y a des tigres. Bon, après ils sortent pas, à mon avis, ils sortent pas les tigres comme ça, mais on était tout seul, tu vois, quand même.
Ouais.
Hein? Je veux dire, les blancs tout seuls, là, dans un parc qu'ils connaissent pas, avec des éléphants sauvages, ça fait un peu flipper.
Eh ben, puisque t'es pas habitué, quoi. Toi, à la rigueur, tu vois des écureuils, tu vois, des pigeons. Mais c'est
Ça.
les éléphants, c'est moins les gérer.
Et en plus, on a croisé un garde forestier à un moment qui nous a dit, si vous voyez des éléphants, vraiment vous courez. Hein. Ok, ils tuent
Ah
des
ouais.
gens. Tu fais ok. C'est bon, j'ai compris.
Ok.
Et pendant ce voyage, j'avais eu pas mal de peur, notamment donc par rapport aux animaux et aux chiens errants aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de chiens errants en Asie. Il
Effectivement.
faut être sur ses gardes. Et en fait, je suis allée plus tard, j'ai fait un autre voyage donc à Chiang Rai. Donc c'est à l'est de Bangkok, à peu près à 3 heures de Bangkok, c'est pas très loin. En 4 heures, t'y es, même pas. Et en fait, j'ai fait un tour de jungle avec quelqu'un que j'ai rencontré, et justement, on s'est fait charger par un éléphant.
Ah,
Tu
pour
vois.
de vrai.
Ouais. Et on
Mais
était
attends, ça
dans une.
attends, t'étais dans une voiture.
Dans une voiture. En fait, on traversait donc le parc, hein, pour aller, je sais, bah justement, pour aller là où on voulait dormir. Et on est tombé sur un éléphant très territorial. Et du coup, bah, tu vois, et en fait, là, je me suis rendu compte que l'éléphant, si tu veux, si tu cours, comme c'est un animal flemmard, eh bah, ben, il va arrêter de te poursuivre.
Ah sérieux? Pour le coup le conseil du garde c'était pas tu sais le conseil bidon de cours non c'est
Ouais,
cours il est trop flemmard
cours.
laisse tomber.
Ouais, c'est exactement. Et encore plus si tu vas pas dans la même direction que lui, tu
Ah mais
vois.
comment t'arrives à courir dans une voiture?
Non, non, on a fait marche arrière.
OK.
Tu fais marche arrière, tu fais oh putain! Et en fait, ça m'a montré déjà que. Enfin, ça m'a enlevé une peur. Tu vois, en mode éléphant sauvage. Parce que j'avais vraiment une grosse peur. Hein,
Ah
tu
ça
vois.
te... ah d'accord t'étais vraiment ambiance
Ça me tiraillait.
ouais
Ouais.
ok cette genre je peux mourir d'une attaque d'un animal sauvage etc
C'est
ok
ça. Et en fait, ça, déjà, je suis allée au-delà de ça. Et en fait, le soir, quand on est parti dormir, il faut savoir que dans ce parc-là, il y a énormément de gibbons. Donc, c'est une espèce
Ah, génial.
Ouais. C'est une espèce de singe qui est magnifique et que je trouve vraiment touchante, notamment par les bruits qu'ils font. Enfin, c'est très spécial comme ambiance. Et en fait, on est allé dormir et pareil, j'ai passé une mauvaise nuit, voilà, où je me suis quand même pas mal surpassée en termes de peur, etc. Et le matin, là, vers 7h, je me réveille. Et t'as un concert, un orchestre de jungle, en fait, qui te réveille avec les gibbons, les oiseaux, les... Tu sais, c'est pas les oiseaux de France, hein, vraiment, c'est des oiseaux tropicaux. Et là, je vois... Et là, et d'entendre le bruit des gibbons et de les savoir vraiment juste à côté de nous, ça m'a... Là, j'ai compris, tu vois. J'ai compris la valeur de juste retour à l'essentiel, aux choses simples, ressentir les choses, pas les analyser, aller au-delà de ses peurs. Et ouais, voilà quoi.
Ouais,
Un
ah ben voilà,
sentiment.
putain, j'ai la boule au ventre là, je t'en reparle,
C'est ça.
j'ai la boule au ventre. Est-ce que, parce que j'aime, je trouve que c'est génial de vivre ce genre de moment. Et vu qu'en ce moment, on est aussi dans une, tu sais, dans une démarche de se dire comment on vit l'aventure à côté de chez soi, avec tout ce qui se passe, avec aussi le fait d'essayer de prendre soin de la planète comme on peut. C'est de réduire notre impact, essayer de commencer à vivre des aventures encore une fois locales. Est-ce
Exactement.
que des rencontres ou des anecdotes ou des moments qui t'ont fait encore une fois grandir, évoluer, percuter sur quelque chose, t'en as aussi vécu en Allemagne ou en Angleterre?
En Allemagne ou en Angleterre?
Non,
Alors...
non, ça c'était pourri, laisse tomber.
Non, 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 non. Qui m'ont fait grandir?
Dans le sens où tu sens que, tu sais, je pense que quand tu vas à l'étranger, quand tu vas pendant 6 mois ou 1 an, il y a des choses sur lesquelles forcément tu évolues, peut-être sur ta vision des choses, une rencontre, une discussion qui va te faire cliquer sur quelque chose, et c'est pas forcément besoin d'avoir un soi, ciel étoilé de fou, te faire charger par un éléphant
Oui.
pour le vivre. Essaie de me dire, mais est-ce que, mais c'est pas forcé d'être le cas, hein, mais est-ce que tout simplement en allant à 1 ou 2 heures, alors d'avion ou quelques heures de bus, de chez toi en France, t'as pu vivre des petits déclics, des petites avancées, des choses qui t'ont fait repartir avec un petit trésor, tu vois, intérieur, grâce à ça, en Angleterre ou en Allemagne.
Oui, mais après, c'était plus dans mes relations. Donc, je sais pas
Ah si, bien
si.
sûr.
Bah parce que j'ai rencontré un Anglais en fait.
Ah,
J'étais
c'est un
ouais,
petit
quand
peu
j'ai
personnel. Je vais
voilà, c'est un peu
taquiner.
personnel,
Ouais, non, mais t'as raison.
ouais. Quand j'étais en Angleterre et en fait cette personne-là justement on avait une telle connexion intellectuelle que bah avec lui oui, c'était un autre monde quoi, si tu veux. Je voyageais et en même temps j'étais très immergée donc dans la culture anglaise. Aussi, ah oui, si, en Angleterre, j'ai donné des cours à des enfants anglais,
Ah yes.
des cours de français.
Et ça t'a
Et
appris quoi, ça t'a apporté quoi?
ben, en fait, c'est tout un autre mode, si tu veux, d'éducation, qui est très justement tourné autour de l'humain. Et où moi, je me suis mise dans des situations où je me mettais à crier, où, tu sais, j'avais le système français en tête, quoi, en fait, où il faut que les enfants m'écoutent.
Ouais.
Et en fait, la directrice, à un moment, voilà, elle m'a un peu recadrée en me disant quelles sont les approches, si tu veux, qui sont beaucoup plus productives, par exemple. Il faut savoir qu'un enfant, en fait, faut l'écouter, tu vois. C'est pas juste quelqu'un qui doit obéir. Faut pas, enfin, si tu le vois comme ça, à partir de ce moment-là, en fait, t'as rien compris. Et une fois où ils étaient insupportables et où je n'en sortais pas, elle les a pris dans sa classe avec ses élèves. Et là, elle les assoit, elle les fait asseoir et elle leur dit bon, elle rappelle les règles, tu vois. Et elle leur parle tout de suite de respect. Et moi, en fait, je pensais qu'à cet âge, parce qu'ils sont jeunes, hein, ils ont 5-6 ans, et elle leur parle tout de suite de maturité, de respect, tu vois. Et en disant. Et là, elle interroge quelqu'un et elle lui pose une question. Il parle et là, elle se met à me parler en même temps qu'il parle. Et là, elle se retourne vers lui, elle me dit, tu vois ce que ça fait? Tu vois, au lieu de l'engueuler. Et là, elle prend son carnet de notes et elle demande à chacun, après avoir rappelé les règles, ce qu'ils veulent de plus à l'école. Et t'en as, c'est bah, plus de jeux, plus de dessins animés, plus de piano, tu vois, enfin n'importe quoi. Et elle note tout. Et là, elle dit, d'accord, moi, je vais faire des efforts. Et si je fais des efforts, vous faites des efforts aussi. Tu vois.
C'est génial. Vraiment...
Ouais, et ça, ça m'a énormément fait grandir et ça m'a fait prendre du recul sur l'échange. Tu vois. L'échange, apprendre à embrasser toutes les perceptions possibles.
Oui, c'est arrêter de voir la vie comme sous un prisme unique qu'on t'a toujours enseigné et que finalement tout va être analysé à travers ce prisme et que finalement, ben, tout à coup, tu ouvres un peu les yeux, tu ouvres les portes, les fenêtres et tu dis « Ah ouais, en fait, j'étais dans une pièce sombre avec juste un petit faisceau de lumière et je voyais que ça alors que ben, en fait, on peut ouvrir toutes les fenêtres en grand et voir beaucoup plus et avoir beaucoup plus de possibilités et voir à 360. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, moi… Je l'ai vécu aussi dans le quotidien et dans le lifestyle quand j'ai eu la chance de vivre plusieurs mois à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou en Espagne. Et j'ai pas eu forcément, cependant, cet aspect, en fait, d'éducation. Parce que c'est ultra intéressant, je trouve, de voir comment les pays éduquent leurs enfants, les petits-enfants, parce que tu vois vraiment la relation que le gouvernement, finalement, a avec sa population. Tu vas voir les valeurs aussi qui vont être inculquées. C'est vrai que, les Anglais, tout ce qui est le monde anglophone, ils sont plus quand même dans le do it yourself, débrouille-toi. Mm-hmm. Et finalement, quand tu vois ce que fait la maîtresse, qu'elle les responsabilise, elle les met face finalement à un problème pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur solution. Malheureusement, en France, on peut pas en vouloir à personne parce que l'éducation est faite comme ça, mais c'est voilà comment faut faire, applique. C'est
exactement.
Tout. Et du coup, ben, il y a aussi ce côté très patriarcal. Voilà, moi, grand président, je vais vous dire comment faut faire. Et du coup, quand il y a un problème, ben, les Français, ils sont perdus. Ils sont perdus. Il y a des manifestations aussi parce qu'ils veulent que ce soit vu que le gouvernement l'a toujours expliqué ce qu'il devait faire, le jour où ça va plus, ils vont demander au gouvernement de changer les choses et non pas eux de trouver leur propre solution. Et parce qu'encore une fois, une solution, elle n'est pas universelle. Hein, ça s'applique aussi à chacun. Tu vois, c'est super intéressant, je trouve.
Exactement.
Et j'encourage tous. Pardon, excuse-moi, vas-y.
Et je trouve justement qu'en France, on a énormément de mal à être empathique.
Complètement.
Et c'est peut-être à cause de ça. En fait, on a vraiment. Il y a un problème d'antipathie en France. On arrive
un problème d'ego.
Un problème d'ego. On n'arrive pas à se dire, moi, c'est ma perception, c'est ma lecture du monde. Mais il faut savoir qu'il y a autant de perceptions que d'êtres humains. Et peut-être que dans la perception de cette personne. En fait, il y a une problématique qui l'a fait souffrir énormément au point de, je ne sais pas, casser un verre. Alors, on ne justifie pas, tu vois, les actes de violence, certes, mais c'est profond. Tu vois. Il faut pas juste se dire « Ah, bah, dans mon mode de pensée, je ne peux pas faire ça, donc lui, c'est vraiment qu'un débile. » quoi. Non. Il y a des choses à aller chercher derrière, en fait. Et dans sa perception à lui qui l'a fait souffrir, si tu ne l'acceptes pas, qu'elle soit différente de la tienne, tu ne risques pas d'accepter grand-chose dans ta vie, en fait. Et tu risques de souffrir parce que tu seras dans une lutte permanente de « je projette ma perception sur le monde et je n'accepte ni les gens comme ils sont, ni le monde comme il est ». Et moi, quand je suis rentrée en France, notamment des Philippines, où j'étais coincée 2 mois, où j'ai vécu un truc plutôt dur, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'ai eu beaucoup de... Ça m'a beaucoup appris la résilience, pour le coup.
Ouais.
Et en fait, quand je suis rentrée en France et que j'ai vu à quel point on n'osait pas, on se mettait vraiment des œillères, quoi. Et à partir du moment, et c'est tellement confortable, si tu veux, de se plaindre, de se complaire dans un inconfort, que on a vraiment cette absence de découverte, quoi, de j'embrasse l'autre perception.
Il y a un vrai. En fait, je pense que c'est une notion qui est très compliquée à comprendre quand tu n'as jamais vécu justement à l'étranger, parce que le fait de vivre à l'étranger, je dis pas que c'est mieux ailleurs, mais justement c'est différent et ça t'ouvre le champ des perspectives. Et en fait, tu comprends que ta vérité n'est juste qu'une façon de voir les choses et pas genre la façon de voir la vie, en fait. Et c'est, je crois que c'est ça un des plus grands bénéfices du voyage, de l'immersion dans d'autres cultures. C'est ça en fait qui rend les choses magnifiques, parce que le vrai problème des Français c'est ce côté un peu pédant, le côté un peu je sais mieux, je vaux mieux que moi je sais. Et en fait, à partir du moment où tu dis moi je sais, en fait c'est que tu sais pas, c'est que tu te fermes à tout apprentissage. enfin qui est qui sait qui enfin non tous les jours on apprend et le côté de bah non quand même chez nous c'est mieux ou bah ça on fait mieux ou bof ou critiquer ou être vraiment dans ce côté se positionner en tant que supérieur tu vois dans le jugement dans l'analyse on se prive de beaucoup de choses encore une fois je dis pas qu'on est moins bon je dis pas qu'on est meilleur mais c'est tu te prives en fait de te nourrir d'autres façons de penser qui vont peut-être t'amener d'autres idées et d'autres façons aussi de te sentir bien. Parce qu'au final, je pense qu'il y a un vrai mal-être en fait aussi chez les Français. Donc, s'il y a un mal-être, c'est qu'il y a des choses qui doivent être réglées.
Tu mets le doigt sur quelque chose d'hyper important. Tu dis apprendre. En fait, c'est 3 années d'échange où j'ai appris beaucoup de choses et des manières différentes de travailler. Et je me suis rendu compte que ce qui nous rend heureux, en fait, c'est pas, il n'y a pas d'idéal. Quoi. C'est un état d'esprit, mais un état d'esprit dans lequel apprendre, c'est le plus important. Et c'est ce... Et moi, maintenant, c'est un leitmotiv. C'est vraiment, j'apprends, donc je suis heureuse. Tu vois ?
C'est beau, ça.
Je suis épanouie parce que j'apprends, parce que j'embrasse d'autres perceptions, parce que j'ose être ce que je ne suis pas. Tu vois ? J'ose me réinventer, j'ose être une autre personne demain. Je suis toujours en devenir, en fait, parce que j'apprends de tout le monde, de toutes les perceptions. Et je suis tolérant. C'est-à-dire que pendant tes voyages, tout ça, parfois tu rencontres des gens, bon voilà, des mentalités un peu extrêmes, que ce soit politique ou autre. Et au lieu de te dire ah ben cette personne bon, aucune valeur, je lui parle pas, c'est je suis tolérante parce que elle dans son système de pensée, dans son système d'éducation, elle a reçu un schéma hyper contraignant, hyper tyrannique pour elle-même, qui fait qu'elle est dans ce truc-là en fait. Et je compatis. Plutôt que de l'enfoncer, tu vois, et de dire, de toute façon, il vote Le Pen, il est débile, quoi, tu vois.
Ouais, pour résumer un peu à la française, ouais. Voilà. Non, mais ça résume très bien, finalement, la définition du bonheur de quelqu'un que je n'arrive pas à retrouver le nom, et qui en fait, c'était un mec, c'était un neuroscientifique qui a étudié la façon de comment être bien, comment chercher le bonheur, quel est le sens de la vie. Il dit, j'ai étudié ça pendant plus de 15 ans, et il dit, franchement, si vous voulez pas perdre 15 ans de votre vie, écoutez comment je l'ai résumé, parce qu'au final, tout se résume à ça, tout se rejoint. C'est le bonheur, c'est aimer, être aimé et apprendre. Et en Exactement. Fait, c'est aimer ce que tu fais, aimer les gens, aimer, tu vois, sentir qu'il y a un sentiment d'amour dans ce que tu fais. C'est pas que de l'amour vis-à-vis d'une personne, hein. C'est le sentiment d'aimer, d'être aimé dans le quotidien. Et être aimé, c'est-à-dire que ben aussi être aimé par une personne, mais aussi être apprécié par des gens, parce qu'en général, quand tu donnes, t'as quelque chose en retour. Et aimer, c'est pas que, encore une fois, de l'amour dans une relation. Et apprendre, comme tu dis, parce que apprendre, et ce que j'ai bien aimé, c'est prendre du plaisir. J'apprends, donc je suis heureuse, c'est ça qui me rend heureuse, et non pas j'apprends pour obtenir. Exactement. Parce que la plupart des gens, ils apprennent ou ils créent des choses pour obtenir derrière. Et ils sont tout le temps frustrés parce qu'à partir du moment où ils ont obtenu ou à partir du moment où ils ont atteint le niveau qu'ils avaient, bah, vu qu'ils sont sur l'obtention, l'obtention est, ou la victoire, elle est que éphémère. Et du coup, leur bonheur, ouais. il est que éphémère. Mais à partir du moment où tu arrives à mettre ton curseur sur le bonheur, il est sur ton apprentissage, et bah, c'est cool quand tu atteins un objectif, c'est cool quand tu as une victoire, et c'est ce qui va te stimuler à continuer d'apprendre. Bah, en fait, c'est là où ton curseur, il est bien et il te permet d'être épanoui. Et je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui sont sur le bon chemin, mais ils n'ont pas compris qu'ils se trompaient de cible, en fait.
C'est ça. Et c'est toute la valeur du chemin plus que l'objectif, de voir sur le court terme et pas tout le temps sur le long terme. Et aussi, quand tu dis aimer, être aimé, et dans aimer, pour moi, il y a écouter, en fait. C'est vraiment, j'écoute. Tu parles, mais une fois que tu as parlé, j'attends pas que tu aies fini pour parler, en fait. Je réponds. C'est complètement différent. C'est une autre approche. C'est-à-dire que je t'écoute vraiment pour ce que tu dis, même si ça demande des efforts. Tu vois, c'est énergivore, parfois, c'est dur. Mais moi, c'est ce que je retiens vraiment de ces 3 années d'échange, c'est écoute et apprends, quoi. Vraiment, écoute et ressens les choses, en fait.
C'est marrant ce que tu dis, c'est que, tu vois, moi, l'exercice de ce podcast, moi qui parle beaucoup et qui avait tendance à interrompre beaucoup les gens, parce que j'ai toujours plein de choses à dire et que je me sens tellement incroyablement avec plein d'idées, donc il faut que je le partage. Et ben en fait, je me suis aussi aperçu que, tu vois, en fait, si tu considères vraiment la personne, bah, tu vas l'écouter jusqu'au bout, en fait. Et que ben, t'as le temps, surtout que sur ce podcast, je ne mets pas de temps particulier. Et il y a une phrase qui m'a fait cliquer, c'est au-delà d'un pote qui m'a dit « Mais laisse-les parler, tes invités, en fait, c'est chiant, tu coupes. » J'ai fait « Merde, tu vois ?» Et le deuxième, pas très longtemps après, J'ai une phrase qui a changé un peu ma vie parce que ça a changé ma façon d'interagir avec les gens. C'est-à-dire quand je suis face caméra, évidemment, je vais pas, enfin, c'est à moi de parler quand je suis tout seul. Mais aujourd'hui, quand je suis avec des gens, je vais toujours poser plein de questions. Parce que il y a cette phrase que j'ai eue qui m'a dit, quand tu parles, tu n'apprends rien. Exactement. Et là, j'ai fait, ah putain, c'est vrai, quand tu parles, tu ne fais que déblatérer, mettre en avant ton savoir, mais que tu as déjà, puisque tu fais que le redistribuer. Alors que quand tu écoutes, tu peux continuer de grandir, tu peux continuer d'être meilleur, tu peux continuer d'évoluer. Et que, ok, c'est bien d'apprendre à faire du public speaking et de savoir s'exprimer en public, mais il y a un moment, tu as poncé le truc, tu apprendras beaucoup plus à te taire. J'ai bien aimé ça. Est-ce qu'on peut finir sur cette. Ouais. Tu disais que. Et j'aimerais qu'on le fasse rapidement, mais ça va être un élément important de ce voyage. Sur la fin, à cause du Covid aussi et du confinement, tu es resté bloqué aux Philippines et tu dis que ça a été une expérience compliquée, mais qui t'a appris beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé aux Philippines ?
Alors, donc aux Philippines, en fait, je suis partie en voyage pour 2 semaines le 8 mars. Et donc, c'était encore. Enfin, en Asie.
Depuis la Thaïlande.
Oui, pardon, depuis la Thaïlande. Donc, en Europe, ça commençait à être très compliqué. Mais en Asie, bon, on avait 50 cas en Bangkok. Bon, ça allait, en fait. Et donc, je pars faire ce voyage. Mais alors déjà, tu vois, je vais te dire un truc. Avant le voyage aux Philippines, je ne le sentais pas. Je ne sentais pas du tout. Mais j'avais mes billets d'avion. J'avais tout qui était réservé avec une amie, en plus, qui venait de France. Tu vois, je n'allais pas la planter. non, je ne le sens pas. Tu vois, reste en France.
Mais pourtant, donc, c'est le meilleur des... C'est le meilleur des signaux.
C'est ça. Et en fait, vraiment, je le sentais pas. Et du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, on va peut-être pas s'écouter, on va voir. Et donc, on a passé une semaine, quand même, une belle semaine de vacances à découvrir plein de choses. Enfin, voilà, ouais. Les Philippines, c'est vraiment un pays extraordinaire, hein, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Et en y allant, cette semaine-là, c'est marrant, mais tu vois, d'ailleurs, je m'en suis un peu voulu, mais j'avais un essoufflement du voyage. J'étais pas dans le truc, tu vois. Ah. Mais parce que, justement, j'avais... cette intuition qui me disait, n'y va pas, tu vois. Et pendant une semaine, j'étais pas bien, j'étais la merde, j'arrive pas autant à profiter que tous les voyages que j'ai faits. Et en fait, j'ai eu un premier billet d'avion qui a été annulé, un billet retour, à cause de Mani, donc, qui était en quarantaine. Mmh. Là, je me dis, ok, pas de panique, on cède pas à la panique, on va reprendre un billet, c'est pas grave. Et là, je vois donc un autre trajet par Kuala Lumpur. Je prends mon trajet, et là, 24 heures avant le vol, le gouvernement malaisien qui ferme ses portes. Et c'est là que les gouvernements, d'ailleurs, ils n'ont pas été très cool, parce qu'ils ont même fermé les portes, en fait, aux étrangers en transit. Alors que...
Ah oui !
Et ouais, alors que justement, on veut rentrer chez nous, en fait.
Alors moi, je suis juste... je fais que passer. Non, non, mais tu restes là, en fait.
Oui. Okay. Voilà, donc en fait, ils ont fermé leurs portes. En fait, ils fermaient l'aéroport, quoi. Et du coup, bah, impossible de reprendre mon vol. Et là... Évidemment, tout le monde se jette sur les billets d'avion. Donc, et là, je vois qu'il y a un autre trajet via Hong Kong. Sauf que c'était dans une semaine. Et ça faisait déjà, voilà, 2 semaines et demie que j'étais aux Philippines. Je me dis, bon, c'est pas grave, je prends ce vol-là. Et là, 36 heures avant le vol, aéroport fermé, enfin, impossible de rentrer. Bref, 3 vols annulés consécutifs, donc avec beaucoup de stress, etc. Parce qu'il faut savoir que moi, j'avais mes examens.
Ah merde. Ouais.
Juste après, qui se faisait en ligne du coup, mais je les avais quand même, j'avais tout mon matériel, tous mes cours, tout mon PC, enfin mon PC.
Ah ouais.
On restait à Bangkok, tu vois. Donc une situation de stress un peu extrême, plus j'étais dans une auberge de jeunesse au sud de Cebu, voilà quoi, c'est pas.
C'est pas là où c'est le plus focus quoi, en termes d'études.
Ouais, et en fait là, toutes les îles aux Philippines fermaient quoi, vraiment il n'y avait plus moyen de circuler.
Ah, même entre les îles.
Et ouais. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est, en fait, que j'ai atterri à Cebu. C'est que de base, on était dans une autre île et puis on a fait un aller-retour pour retourner à Cebu parce qu'il y avait notre aéroport. Donc on s'est dit, on reste à Cebu. Et en fait, je suis restée coincée à Cebu 2 mois. Parce que, donc déjà, à la fin du mois de mars, je commençais vraiment à être en panique parce que j'avais plus d'argent. Tu vois, c'était la fin de mon échange, en fait, quasiment.
Bien sûr.
Et j'avais plus de sous. Et là, je me dis, merde, je fais comment ? Je dois payer l'auberge, plus le loyer, plus les frais. Je devais acheter un PC, tu vois, un ordinateur.
Pour pouvoir faire tes examens.
Et ouais, et là, et plein de trucs à côté. Enfin, tu sais, j'avais pas mes affaires, bon, voilà. Donc, des frais. Et moi, mon compte à zéro. Je fais, non, c'est pas possible. Et mais en même temps, j'avais une petite voix qui me disait, ça va aller, tu vois, tout va bien. Et j'ai fait beaucoup de méditation, en fait, notamment au mois de mars.
Génial.
Pour essayer de voir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Parce que souvent, il faut savoir que dans ces moments de stress extrême, on a tendance à pas du tout regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En fait, on est pris dans le stress, dans le truc. Mais est-ce qu'on se pose la question, comment mon corps, il le vit ? Comment je le vis, en fait ? Et oui, on sait qu'on le vit mal, mais on ne sait pas comment on le vit mal. Et la méditation t'aide énormément à le savoir. Et du coup, à lâcher prise, à te détacher, en fait, de tes émotions. Enfin, sans être un robot, hein, bien sûr. Mais... j'ai beaucoup médité. Et début avril, je reçois une bourse à la mobilité. Alors que j'avais été refusée au mois de septembre. Ils me l'ont accordée au mois de mars, au moment où j'avais plus d'argent, tu vois.
Ah, ça. Et c'est là où tu dis, OK, ouais. Le karma. Le karma, il est là,
le
quoi.
Le karma. Déjà, et en plus, autre mauvaise nouvelle, donc début avril, je prends la décision de rester aux Philippines, j'attends que la Thaïlande rouvre, quoi. Je veux dire, j'ai mon appartement, ouais. J'ai mes affaires, j'attends, je patiente. Et là, je tombe malade, tu vois. Je tombe malade, ah oui, ce que je dis pas, donc tous les vols de rapatriement pour la France étaient passés. Hein.
Ah oui.
Et oui, donc j'avais pris un risque en me disant, je reste aux Philippines.
Ouais.
Et là, je tombe malade juste après que les vols de rapatriement soient passés. Mais vraiment malade. C'est-à-dire que j'ai eu en fait une infection de l'appareil urinaire qui passait pas. Et j'ai pris 5 traitements antibiotiques différents. Localement, je suis allée 6 fois chez le médecin aux Philippines. On a essayé d'aller à l'hôpital, faire des analyses. Bref, rien marchait. Moi, j'étais dans un état de fatigue extrême. Et il faisait très très chaud, on a eu des grosses températures à ce moment-là. Bref, j'étais vraiment... Et puis j'avais personne, tu vois, j'avais pas d'amis, pas de famille, rien.
Ta pote était partie ? Elle avait réussi à repartir en France ?
Elle avait réussi à repartir en France, effectivement.
Ouais, donc là, t'étais dans le dur, quoi.
J'étais vraiment dans le dur. Alors, heureusement, merci à mes amis qui m'ont bien soutenue et à ma maman, par visio. mais je savais au fond de moi que ça allait aller, tu vois, je savais pas. Il y avait un truc qui me disait, ça va, tu vois, ça va. Mais pourtant, il n'y avait plus de vol. Mais ça va. Mais quand même, je vais peut-être mourir. Mais ça va.
Ouais.
Enfin, tu vois. Et en fait, pareil, donc, un gros travail de méditation et de gestion de la douleur par la méditation. Mm-hmm. Jusqu'au jour où l'ambassade française me dit « On a un vol de rapatriement via Madrid. » Et là, prenez-le. Par contre, une fois que vous êtes à Madrid, vous vous débrouillez. Je dis « Ah oui, bah, d'accord. Enfin, merci. » Surtout qu'à Madrid, ce n'était pas le plus safe en termes de coronavirus. Ouais. Et finalement, l'assurance, vu que c'était un rapatriement sanitaire, parce que j'étais malade, elle a pris en charge. Et je suis rentrée en France, tu vois, au bout de 4 jours de voyage quand même, depuis Manille.
Ouais, 4 jours, ça commence à piquer un peu pour quand on prend des avions.
C'est beaucoup. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai rencontré un mec génial qui a fait le tour du monde en gyro-roue. Et alors là, ça vaut le coup de l'interviewer, je pense.
Ah bah écoute, ce sera un prochain podcast.
Et en fait, je rentre à Paris Charles de Gaulle et là, bon, ambiance super morose, voilà. Mais je guéris.
Et tu les as eu des examens ?
Mes profs ont été sympas, ils ont rallongé du coup mes délais.
Ah.
Donc j'ai tout validé, tout bien.
Mais génial, elle se termine bien cette histoire.
Elle se termine très bien.
Bon, là, t'es encore en France et t'as toujours ton appart et tes affaires en Thaïlande.
Ouais, alors l'appart, non, j'ai eu mes super amis qui m'ont du coup déménagé. En fait, ils ont tout déménagé mon appart.
Ouais, ouais.
Ils ont mis toutes mes affaires chez eux. Donc là, en fait, mes affaires sont toujours là-bas.
Ok.
Mais j'irai les récupérer à Noël, je pense.
Ça va. Il y a des. Hey, ça se termine bien quand même, hein.
Ça termine bien. Mais justement, parce que j'ai fait ce travail de. Tu vois, j'aurais pu complètement céder à la panique, en fait.
Ouais.
Et je me suis dit, non. Tu vas voir, ça va aller en fait. Juste écoute-toi. Et ça m'a servi de leçon. Je me suis dit, prochaine fois, je m'écouterai.
Exactement. Ça, je dirais jamais assez. Suis ton instinct. C'est la seule chose à laquelle tu peux avoir confiance. Et en fait, c'est un super pouvoir. Tout le monde l'a et personne n'utilise. Il y en a, ils veulent faire du feu et passer à travers les murs. Mais attends, mais t'as un instinct, mec. T'as un spoiler de ta vie. Généralement, si tu veux voir le futur de ta vie, tu l'as en toi. Écoute. J'aime bien finir ce podcast par deux questions. La première, c'est si je te file les clés de la DeLorean pour aller revivre un seul moment de ces 2 ans et demi d'études que t'as pas déjà cité, ce serait quel moment ?
Alors, faut savoir que en Thaïlande, j'ai passé ma formation de plongée.
Ouais.
Et en fait, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que je savais pas, mais j'avais une peur, voilà, par rapport au fond marin.
D'accord.
J'adore l'océan, hein. Je suis vraiment passionnée par
Mais
l'océan.
finalement, une petite
Mais
flippance, ok.
ouais, quand en fait il faut passer de la surface aux 10 mètres, c'est quand même très dur, hein. Voilà, faut vider ses poumons, il y a tout un travail à faire avec ses oreilles, c'est déroutant. Et jusqu'au dernier jour de formation, en fait, l'instructeur, il a failli pas me certifier. Et parce que vraiment, j'avais cette anxiété. Et en fait, je me suis créée, si tu veux, à la dernière journée, donc oui, je devais tout jouer, en fait, sur la dernière plongée. Je me suis créée une espèce un palace mental où, en fait, mon ex-compagnon me prenait dans les bras, tu vois. Il me disait, ça va aller, ça va aller, tu vas y arriver, t'es forte. Mais j'étais hyper anxieuse, vraiment. Faut s'imaginer, je ne l'ai peut-être pas bien décrit, mais j'étais extrêmement stressée à ce moment-là parce que je devais
Ok.
tout jouer là-dessus.
Ouais.
Et là, je plonge. Et je plonge super bien. Et là, je découvre un monde magique, tu vois. Mais magique, avec bon, voilà, des poissons de toutes les couleurs, des barres de corail de toutes les couleurs.
Parce que les autres fois, t'avais pas réussi à descendre ou c'est que t'étais tellement stressé que tu voyais rien?
Non, non, j'avais réussi à descendre, mais je profitais pas, tu vois.
Ouais.
Je
Ok.
profitais pas parce que j'étais dans mon émotion, tu vois.
Ouais, dans le
Et en
stress.
fait, voilà. Et je suis allée au-delà de ça, donc à la dernière plongée, et je me suis vraiment surpassée, tu vois. Je me suis vraiment, pour quelqu'un qui pouvait
Ah,
pas, ouais.
t'aimerais revivre ce sentiment où tu t'es surpassé,
Ouais.
en fait.
Ce sentiment où je me dis, j'ai
Fier.
réussi, et surtout, là, je me connecte. Là, je suis dans l'océan. Là, il y a le poisson, là, il est en train de me faire coucou, tu vois.
Génial.
Vraiment, là, je l'ai ressenti au plus profond de moi, ouais.
Chambé. Si tu devais résumer justement ces 2 années, voire 3 années d'études à l'étranger, en une citation, une punchline ou une phrase de ta création, ce serait laquelle?
Ose te réinventer.
Oh, je l'aime bien celle-là. Elle est très
N'aie
sympa.
pas peur d'être celui que tu n'es pas encore.
N'aie pas peur d'être celui que tu n'es pas encore. Putain,
Ou
ça c'est.
celui où
Hey!
c'est.
Oui, celui ou celle, bien évidemment. Anaïs, je te remercie beaucoup pour ce beau moment, pour ce partage fort en émotion de tout plein de leçons, de tout plein d'expériences, de tout plein d'anecdotes. Merci beaucoup d'avoir voulu partager ce moment et d'avoir, j'espère, inspiré pas mal de jeunes étudiants ou de futurs étudiants à bah, leur donner les possibilités en fait d'aller vivre et expérimenter une vie exotique et à l'étranger à moindre frais. Et surtout sans se faire une coupure, mais que ce soit dans la prolongation de leurs études et de leur vie. Et
Exactement.
ça, c'est ça qui est important aussi. Le voyage, c'est pas une bulle, c'est pas une coupure, c'est pas une parenthèse. C'est une continuité, c'est un tremplin, c'est un
Tout à
accélérateur.
fait.
Donc merci beaucoup, internautes. Avant de nous quitter, il y a toujours les choses qui nous font plaisir. C'est les petites dédicaces en story. Alors récemment, il y en a une qui m'a vraiment fait plaisir. C'était quelqu'un qui était en Nouvelle-Zélande en train de faire du fruit picking dans les serres et il disait, mais je passe toutes les journées sur le podcast et ça me fait passer les moments plus vite. Et voilà, c'est les petites dédicaces comme ça qui font toujours plaisir, donc n'hésite pas. Et puis, bon, Anaïs, je vais te souhaiter un bon retour en Thaïlande dès que tu pourras et une bonne
Yes.
réinstallation en France. On fait comme ça?
Merci Alex, merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Ciao!
Salut.